Non, mais j'ai parlé tout à fait de relations entre mémoire et déplacement, et plus particulièrement d'ailleurs, l'occasion on pourra en discuter, j'ai beaucoup employé le mot souvenir plutôt que celui de mémoire, pour éviter certaines ambiguïtés avec par exemple, la mémoire d'un ordinateur, etc. Et je voudrais parler de ces relations entre mémoire et déplacement par le biais d'une œuvre de Mike Kelly, donc un artiste américain vivant. Cette œuvre s'intitule Educational Complex. Elle a été réalisée en 1995 et elle signale un déplacement d'accent chez Kelly, dont les œuvres dans les années qui précèdent se signalaient par des aspects formels très différents, comme vous pouvez le voir. Elles étaient pour l'essentiel faites de collections d'animaux en peluche ou tricotés, qui étaient soit assemblés en sculpture ou tableau, soit disposés, comme ici, sur des tapis et couvertures en crochet, quand ils ne sont pas situés sous ces couvertures en crochet. La réception qu'ont connue ces séries d'œuvres a conduit Kelly à ce déplacement d'accent, alors que l'usage d'objets faits à la main et prioritairement destinés à l'échange domestique renvoyait à l'analyse de rapports de classe ou de genre, ou encore à l'économie du don qui organise leur production. Ces travaux ont immanquablement été interprétés en termes de résurgence de souvenirs traumatiques liés à des sévices subis dans l'enfance. Outre le phénomène de déplacement empathique que suscitent les poupées ou leurs substituts, le caractère dominant de cette interprétation a un motif plus local. La mode dans la culture nord-américaine des années 1980-90, d'une psychologie victimaire, où la théorie du syndrome de répression du souvenir, Repressed Memory Syndrome, joue un rôle primordial. Je cite le résumé qu'en donne Kelly. Pour faire bref, les partisans du syndrome de répression du souvenir pensent que les expériences traumatiques sévères, spécialement chez les enfants et spécialement dans le cas de sévices sexuels, sont l'objet d'une répression qui empêche qu'on s'en rappelle. Cette répression a pour résultat des pathologies qui vont de simples symptômes névrotiques jusqu'à cette fracture psychique achevée qu'est le syndrome de personnalité multiple. Certains thérapeutes, cependant, pensent que ces souvenirs réprimés sont récupérables à l'aide de l'hypnose et ce type de thérapie est aujourd'hui assez répandu. La vogue du syndrome de répression du souvenir a donné lieu dans les années 1980 à de véritables chasses aux sorcières. La plus célèbre d'entre elles, le procès du jardin d'enfants McMartin en Californie du Sud. Ses propriétaires avaient été accusés de sévices sur les jeunes enfants dont ils avaient la garde, sur la foi de témoignages dont la véracité et la manière dont ils avaient été sollicités n'avaient jamais été remises en question. Après 6 ans de procès et une enquête qui a mis en œuvre jusqu'à des fouilles archéologiques pour confirmer ou infirmer l'existence d'hypothétiques tunnels souterrains clandestins, les accusés ont tous été acquittés. Ce procès, comme les nombreuses affaires moins célèbres qui l'ont accompagné, et la ferveur médiatique qu'ils ont suscitée à l'époque, met en relief l'ambivalence d'une théorie qui postule que la preuve de l'authenticité ou de l'historicité du souvenir réside dans le fait qu'il est justement impossible à rappeler. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce point. La théorie du syndrome de répression du souvenir apparaît en effet comme la réification d'une réflexion freudienne sur le souvenir et l'oubli, à laquelle elle a par ailleurs été expressément rattachée. Dans l'essai qu'il consacre en 1899 à ce qu'il nomme souvenir écran, ou aussi parfois on traduit souvenir couverture, Freud construit cette réflexion. Pour tenter de comprendre la présence dans l'esprit adulte de souvenirs de la première enfance, dont le caractère banal semblerait devoir interdire la survivance, il élabore une théorie du déplacement du souvenir que commande une relation dynamique entre la mémoire et l'oubli. Les souvenirs traumatiques y font effectivement l'objet d'une répression par la conscience, et celle-ci empêche qu'ils soient directement et clairement remémorés. Mais ils ne sont pas voués pour autant à un oubli total. Ils sont plutôt retraduits et comme défigurés par le biais d'un triple travail de déplacement, de condensation et de dramatisation visuelle. Ainsi recomposé, le matériau traumatique trouve alors à s'ancrer dans le dispositif scénique que procurent certains souvenirs banals. L'intensité et la clarté perceptive de cette nouvelle construction mémorielle, chargée d'une intensité affective sans rapport avec son apparence, devient alors plus compréhensible. La scène anodine, malgré l'effet de tableau qu'il apporte, tient lieu de quelque chose d'autre, et ce sont les parties escamotées du souvenir qui confèrent à cette formation de compromis son intensité. La construction freudienne du souvenir écran, plus tard étendue aux opérations de la mémoire en général, rend compte du rôle que joue l'image dans la production du souvenir. Elle invite en particulier à penser la qualité scénique et la clarté visuelle associée au souvenir comme la trace d'un processus de dramatisation où les opérations de juxtaposition spatiale, avec ce qu'elles impliquent de disposition scénique, occupent un rang notable. Mais elle invite simultanément à ne pas considérer ces qualités comme des preuves d'historicité. Il s'agira plutôt, contre l'effet de tableau mis en œuvre, de traiter l'image du souvenir comme une formation stratifiée de figures. La visualité y constitue un mode de figuration, autrement dit un mode de déplacement parmi d'autres, et la présence hallucinatoire qu'elle convoque ne possède aucun effet de preuve. On peut, à partir de ce constat, revenir sur la théorie du syndrome de répression du souvenir. Elle possède en commun avec les hypothèses freudiennes l'idée que l'oubli, plutôt que d'un simple défaut du souvenir, procède de sa répression active, l'inaccessibilité de la trace d'un événement dans la mémoire est due à son caractère traumatique qui a conduit à sa suppression de l'appareil psychique conscient. Mais les similitudes avec Freud s'arrêtent très vite. Là où il identifiait dans le souvenir la stratification en une construction scénique de figures déplacées appartenant à des couches temporelles variées, le syndrome de répression du souvenir construit une alternative obligée entre, d'une part, un oubli total, effet d'une répression achevée et sans reste, autrement dit un oubli qui s'ignore lui-même, et d'autre part, la résurgence triomphante, car elle aussi achevée, du souvenir réprimé. Dans cette alternative, le caractère de bonne image suscité par l'abondance et la clarté des détails, ou encore par leur cohérence scénique, se porte garant de la véracité d'un souvenir, jusque-là scellé hermétiquement et emmagasiné intact en vue de sa révélation future. La présence hallucinatoire se convertit en instance de vérité, au mépris parfois de la plus élémentaire exigence de vraisemblance. La fortune du syndrome de répression du souvenir dans la culture contemporaine, jointe aux effets d'identification empathique que suscitaient Peluche et autres objets transitionnels, a amené Kelly à réfléchir sur le blocage dans la réception qu'induisaient ces facteurs. La série des Empathy Displacements, donc déplacements empathiques, et après elle, l'installation Craft Morphology Flowchart, réalisée en 1991, témoigne d'une tentative de distanciation du matériau. Pour cette dernière exposition, Kelly montre les peluches et les jouets tricotés couchés sur des tables et rangés par type. Une photographie de l'objet aux côtés d'une règle complète l'arrangement, comme s'il s'agissait de trouvailles archéologiques. Mais aussi bien ces arrangements institutionnels évoquent la photographie criminelle et l'archivage des preuves, et on ne quitte pas si aisément l'univers médiatico-judiciaire édifié autour du syndrome de répression du souvenir. Plutôt que de chercher à refroidir par la distanciation les affects suscités par ses travaux, Kelly va alors surenchérir dans leur mise en scène. Il abandonne les amas d'objets traditionnels en voie de devenir sa marque de fabrique et décide d'assumer seul et pour de bon la position victimaire que les spectateurs tendaient à projeter sur ses travaux. Educational Complex incarne ce changement de stratégie. En parfait contraste avec l'aspect bas, mou et dénué de structure architecturale de ses précédentes accumulations d'objets, La nouvelle installation se présente comme la maquette imposante d'un ensemble de bâtiments posés sur une table à tréteaux. Les édifices qui composent cet ensemble ne possèdent pas d'unité formelle et, à l'exception d'une église et d'une maison d'habitation, pas de destination évidente. De fait, la logique qui les rassemble est mémorielle. Educational Complex juxtapose sur un même plan et réalisé à une même échelle les modèles réduits de chacune des institutions scolaires ou universitaires qu'a fréquenté l'artiste, du jardin d'enfants jusqu'à ses études supérieures en école d'art. S'y ajoute la maison où il a grandi. Unis par leur appartenance commune à la biographie d'un même individu et disposés selon une logique indéchiffrable pour le spectateur quelconque, ces édifices composent une sorte de campus ou de quartier urbain. Celui-ci acquiert pour Kelly la valeur d'un lieu utopique, à la manière du Goetheanum conçu par Rudolf Steiner, ou encore de la communauté d'Arcosanti de Paolo Soleri, l'un et l'autre cités en exemple par l'artiste. Mais ce lieu utopique, à la couleur uniformément blanche, est aussi, ou plutôt, un lieu dystopique. C'est ce que laissent entrevoir les découpes biomorphiques évocatrices d'autres travaux contemporains de Kelly. Alors, j'ai montré une installation où vous voyez ces peintures avec des découpes assez étranges qui rappellent les découpes que vous voyez dans l'insert sur les maquettes. Les intérieurs que découvrent ces découpes ne se composent pas en effet seulement de pièces et de salles que séparent des cloisons, des couloirs et qui communiquent par des portes et des fenêtres. De nombreux blocs opaques y demeurent entièrement inaccessibles au regard. Ces zones d'opacité, qui contrarient en particulier les exigences de circulation inhérentes à la destination des bâtiments, défont la cohérence fonctionnelle de l'espace. Elle signale le rapport qu'il entretient avec le travail du souvenir et avec l'oubli qui s'y loge. Dans sa version achevée, Educational Complex propose un partage clair entre l'aspect extérieur des bâtiments, régi par une exigence d'authenticité dans la reproduction qui a nécessité un travail de documentation historique, et leur intérieur, qui lui est soumis au jeu capricieux du souvenir et de l'oubli. Je cite l'artiste. Les deux élévations extérieures des maquettes sont assez exactes. Elles sont fondées sur des photographies et, dans certains cas, sur des plans. Les intérieurs, à l'opposé, sont radicalement incomplets, ce qui reflète mon incapacité à me souvenir de ce qu'il y avait là. Ces sections d'architecture sans souvenir sont laissées en blanc, représentées comme des blocs remplis, inaccessibles. Je dirais qu'au moins 80% des bâtiments sont remplis de cette façon. Avant d'analyser la manière dont Kelly a figuré les blancs du souvenir, on notera que la distinction de méthode qui préside à la réalisation de l'extérieur et de l'intérieur des maquettes n'était pas partie prenante du projet initial. Comme l'explique Kelly, au début, mon intention était de construire les maquettes des diverses écoles complètement de mémoire. Mais il est vite devenu apparent que mes souvenirs de ces structures étaient si pauvres qu'il était impossible de construire des maquettes en trois dimensions fondées sur eux. Mes efforts pour dessiner des plans ont donné des croquis incompréhensibles, des pièces déconnectées, sans information sur leurs relations spatiales. De même, j'étais incapable de les placer, même grossièrement, à l'intérieur des formes approximatives des bâtiments que je pouvais me rappeler. Ces esquisses étaient si informes qu'elles défiaient toute réalisation architecturale. J'ai donc décidé de m'en remettre à des photographies et des plans pour m'aider à reconstruire plus exactement les architectures des écoles. Par opposition aux détails de l'extérieur, j'espérais que le caractère partiel de mon souvenir des espaces intérieurs serait rendu plus frappant. Le projet initial de Kelly, donc construire les maquettes de mémoire, rencontre une difficulté inhérente au travail du souvenir. Comment transformer en un espace cohérent une scène du souvenir dont les caractéristiques qui sont locales ne se laissent jamais entièrement spatialiser, car elles ne peuvent faire l'objet d'une mesure déterminée ou d'un calcul. Le problème est ici redoublé par le fait que Kelly prétend ramener au jour non pas des événements ou des faits, mais des lieux, à savoir le matériau même qui sert d'auxiliaire à l'activité habituelle du souvenir. En effet, je cite, lorsqu'après un temps d'absence, nous revenons dans certains lieux, non seulement nous les reconnaissons, mais nous nous souvenons de ce que nous y avons fait et des personnes. Parfois, des pensées tues reviennent aussi à l'esprit. La remarque que je viens de citer provient du chapitre que Quintilien consacre à l'art de la mémoire dans son manuel de rhétorique, L'institution de l'orateur. Ça n'est pas un hasard. Anthony Wedler a le premier repéré les connexions entre la construction de Educational Complex et la tradition des arts de la mémoire, tout particulièrement sous la forme des théâtres de mémoire qui ont fleuri à la Renaissance. Il repère aussi, malgré les points qui les unissent, la différence profonde qui sépare les deux démarches. Dans les théâtres de mémoire traditionnels, écrit Wedler, l'architecture fonctionne comme un cadre pour l'objet ou pour le nom, et l'espace fonctionne comme un outil de positionnement pour localiser le souvenir. L'espace architectural est une précondition, une fiction qu'on invente et se rappelle en vue d'autre chose, de quelque chose qui a un potentiel d'oubli. Les bâtiments de Mike Kelly, à l'opposé, sont eux-mêmes les objets du souvenir, en tant que structure institutionnelle et cadre de la formation du sujet dans le temps. Lorsqu'il tente de reconstituer, à l'aide exclusive du souvenir, l'espace architectural des lieux institutionnels où il s'est construit, Kelly lance donc une entreprise vouée à l'échec. Et c'est ce que manifeste l'impossibilité pratique de transformer les diagrammes et croquis informes obtenus par simples exercices de mémoire en dessins et plans qui puissent servir de base à la construction de maquettes. La transformation des lieux intensifs du souvenir en espaces arpentables et mesurables, qui est une donnée préalable à la construction d'un art de la mémoire efficace, est ici suspendue à un travail du souvenir qui, parce qu'il s'effectue justement sans l'aide de ces artifices, se trouve confronté aux forces d'oubli dont témoigne la résistance diffuse à l'entreprise de spatialisation. Kelly explique qu'il a eu le plus grand mal uniquement à partir des éléments du souvenir à reconstituer les lieux, mais aussi les activités, donc les cours, les professeurs, etc., qui y prenaient place, et qu'il subsistait juste quelques images dont la clarté, justement, et le fait qu'elles étaient très peu nombreuses, les rendaient elles-mêmes suspectes. Les souvenirs naturels ne fournissent pas les matériaux nécessaires à la constitution d'une image spatiale cohérente. D'une part, à cause de la quantité incalculable d'oubli qui les enserre, d'autre part, parce que l'intensité des images qui en émergent signale la charge d'affect qui s'y attache et leur caractère construit. En réponse à cet obstacle, Kelly va recourir à une méthode historique de documentation destinée à restaurer la fonction de cadre de l'architecture. Je voulais, explique-t-il, dessiner des bâtiments qui puissent effectivement être bâtis et ne pas produire seulement des diagrammes bidimensionnels d'un espace mental. Dessiner des édifices qui puissent être effectivement bâtis, c'est en effet créer le cadre nécessaire à une véritable entreprise de récollection. C'est construire des possibilités de déambulation entre les lieux du souvenir, selon des parcours dont les directions et les distances obéissent à des relations réglées. La maquette définitive d'Educational Complex réalise ces exigences. Les lieux du souvenir, que sont les différents édifices scolaires et universitaires qu'il a fréquentés, à différentes époques et dans différentes régions géographiques, se voient dotés d'un plan spatial commun et leurs positions respectives dans l'espace ainsi défini, qui sont stables, peuvent faire l'objet d'un calcul. De ce point de vue, quoi qu'en dise Wedler, la maquette réalisée s'inscrit tout à fait dans la logique d'inscription spatiale des lieux propres aux arts de la mémoire. Paradoxalement, cependant, cette reconstitution historique, méticuleuse, ne se trouve pas ici mise au service de la récupération des souvenirs personnels du sujet. Elle sert plutôt de cadre à la mise en scène de l'oubli auquel elle prétendait remédier, selon des principes qui, cette fois-ci, touchent de très près au syndrome de répression du souvenir, un syndrome maintenant adopté au titre de fiction théorique et assumé comme tel. Si l'aspect extérieur des édifices de la maquette obéit bien en effet aux exigences de mesure et de circulation qui définissent la spatialité, qu'il prend en particulier en charge l'ambulation des corps interdite par l'échelle réduite des maquettes, leur intérieur contrarie ces ambitions. Pour figurer ce qui distingue le souvenir de la reconstitution documentaire, à savoir la persistance ou l'insistance de l'oubli, il devient nécessaire de fabriquer un non-espace et un non-espace qui puisse entrer en relation avec l'enveloppe spatiale. Mesurable uniquement de l'extérieur grâce aux rapports qu'ils entretiennent avec les intervalles qui les entourent, les blocs interdits au regard qui colonisent ces maquettes figurent ces non-espaces, ou pour reprendre l'expression de Kelly, ces espaces manquants. Inatteignables, impénétrables spatialement, ces zones d'opacité défient en définitive toute tentative de déplacement. L'opération de mise en scène du blocage, ici effectuée par Kelly, mime la stratégie réificatrice qui sous-tend la théorie du syndrome de répression du souvenir. Elle fait alterner sans raison la perfection hallucinatoire de l'espace du souvenir prétendument retrouvé, extérieur des bâtiments, avec le blocage absolu que suscite un oubli lui aussi supposé parfait. Mais comme l'indique le passage nécessaire par la reconstitution de l'aspect extérieur des bâtiments, la spatialisation artificielle qu'il implique, la mise en scène du syndrome de répression du souvenir est ici présente au titre de fiction. C'est ce qu'indique la discontinuité entre l'extérieur et l'intérieur des maquettes, accentuée par les formes étranges des découpes biomorphiques. C'est ce qu'indique aussi l'exagération de cette discontinuité qui manifeste dans la décision de reconstituer uniquement les extérieurs en vue d'un résultat plus frappant. Discontinuité et exagération transforment en effet les symptômes fétichisés du syndrome de répression du souvenir en stratégie méthodique de production, ce qui est tout à fait différent. Sa relation étrange à l'espace donne à Educational Complex une qualité particulière. Anthony Widler fait observer que, si contrairement à d'autres œuvres de Kelly, ses maquettes réclament et acquièrent un statut architectural, elles ne se réalisent pas pleinement en tant qu'œuvres architecturales. Widler localise cette incapacité dans l'intérêt persistant et presque obsessionnel qu'elles manifestent pour le souvenir, et simultanément dans leur interrogation de l'espace comme véhicule primordial de sa répression et de sa récupération. Kelly lui-même parle du rapport étroit qu'entretient sa maquette avec ce qu'il nomme « mon préjugé contre l'architecture ». De fait, la résistance de la démarche architecturale à se plier sans rechigner aux exigences du souvenir, autrement dit, à les réaliser, n'est pas surprenante. Elle est le fait d'une activité dont le médium est l'espace, à savoir une entité homogène et mesurable, où toute forme possède des limites déterminées. Le souvenir, lui, a fondamentalement à voir avec le lieu. Il est en ce sens incompatible avec la conception entièrement spatialisée du lieu qui préside au travail de l'architecte en tant que bâtisseur qui calcule. Le souvenir est aussi incompatible avec une conception qui, réduisant le déplacement à un pur mouvement dans l'espace, oublie ou veut ignorer le travail figural qui l'abrite et qui lui donne sa teneur propre. Pour élaborer pleinement cette dimension figurale et locale du souvenir, même sans quitter le cadre fictionnel du syndrome de répression du souvenir, il faudra alors à Kelly quitter la quasi-architecture qui est la maquette d'Educational Complex, et se lancer dans la réalisation des scénarios de souvenirs manquants fictifs qui forment la substance de Day is Done, le travail auquel il a ensuite consacré le meilleur de son temps depuis une dizaine d'années. Mais ceci est non pas simplement une autre histoire, mais beaucoup d'autres histoires. Et je m'arrêterai donc à Educational Complex. Merci bien.
Voilà.